Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous continuons notre réflexion sur la culture générale, qui est faite à partir de mon ouvrage « Comprendre la culture générale », paru chez Ellipse à Paris. Cet ouvrage est toujours disponible dans les librairies. Alors, de quoi s'agit-il ? La culture générale est faite, à mon avis, de constructions symboliques qui fédèrent les groupes humains et qui sont intégrées dans l'âme des individus de façon à constituer des ensembles cohérents. Alors, bien entendu, parler de construction symbolique mène à s'interroger sur la nature du langage symbolique. Et c'est le sujet de mon quatrième chapitre de l'ouvrage que je viens de mentionner. Le langage symbolique, comment se constitue-t-il? Quelles en sont les catégories? Alors, nous avions, lors de la dernière émission, analysé des choses comme le paradoxe ou une formulation étrange qui va contre l'opinion commune. Et stylistiquement, nous avions parlé de l'oxymore, c'est-à-dire une figure au moyen de laquelle deux choses, considérées ordinairement comme opposées, sont unies, vous voyez. Alors, l'oxymore, c'est un défi jeté au principe d'identité d'Aristote, selon lequel A est A et A n'est pas non A. Et selon ce principe, une chose ne peut pas être elle-même et son contraire en même temps. Alors, si l'on raisonne ainsi, et la logique mathématique ou la logique de type binaire, comme celle des ordinateurs, peuvent y conduire, on ne comprend pas les choses les plus profondes. La logique des ordinateurs, c'est une logique du type « if go to », « si va là » ou bien « if then else ». Si cela ne va pas, tu n'as qu'à essayer une autre voie, vous voyez. Eh bien, au contraire, dans la logique symbolique, dans chaque situation, il y a plusieurs voies pour aller au but. Un seul choix n'épuisera rien. Et le poète Mallarmé a dit l'essentiel là-dessus, « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». Alors, prenons des exemples concrets. Les esprits superficiels s'imaginent peut-être que l'on est soit heureux, soit malheureux, ou bien soit gai, soit triste, ou bien ils s'imaginent que l'on aime quelqu'un, ou bien au contraire qu'on le déteste. Mais le langage symbolique dit très souvent que là où l'on met « ou », il faut mettre « et ». Et ainsi, on peut comprendre, par exemple, l'expression de Rimbaud « les tristesses du bonheur », ou bien l'expression de Flaubert au début de « Bouvard et Pécuchet », « la tristesse des jours d'été ». Voici commence ce roman, « tout semble être engourdi dans le désœuvrement du dimanche » et la tristesse des jours d'été. En effet, il n'y a pas de tristesse s'agissant du printemps, mais il y a une tristesse à propos de l'été. Parce que le printemps, c'est la saison des fleurs, l'été, fait sa cheminée vers la saison des fruits, et ce n'est pas le temps des attentes, mais celui des obtentions, des accomplissements, des réalisations. Donc je ne sais pas si les fruits passent toujours la promesse des fleurs, mais lorsque Flaubert parle de la tristesse des jours d'été, il montre bien que lorsque quelque chose a commencé de se réaliser, eh bien l'attente de cette chose a disparu. En effet, on peut menacer quelqu'un de la réalisation de son désir le plus profond. Voici par exemple ce que Kafka écrit à la fin du premier chapitre de son roman « Le château ». « Le château fit retentir un son de cloche, un son ailé, un son joyeux, qui faisait trembler l'âme un instant. On eût dit, car il avait aussi un accent douloureux, qu'il vous menaçait de l'accomplissement des choses que votre cœur souhaitait obscurément. » Voyez. Je crois que c'est Oscar Wilde qui disait « Les dieux nous exauce en réalisant nos souhaits. Et ensuite, et finalement, ils nous menacent, ils nous punissent. Voilà, les dieux nous punissent en nous exauçant, vous voyez. Hein. Donc, cette phrase, justement, montre bien que la tristesse concerne l'accomplissement. Alors, prenons le cas du bonheur et du malheur. Naïvement, on croit d'habitude qu'on peut être rendu malheureux ou non, suivant qu'on obtient ou pas ce que l'on désire très fort. Et je pense alors qu'au contraire, on pourrait mettre « et ». Hein, de toute façon, il faut distinguer deux types de malheur. Hein. Si on n'obtient pas ce que l'on veut, bien sûr, on est frustré. Mais si on l'obtient, on risque d'être déçu. Alors d'un côté, il y a le malheur de ne pas avoir, et de l'autre côté, il y a le malheur d'avoir. Alors quel est le meilleur partage? Vous voyez, bien malin qui saurait le dire. Et à partir de là, on comprend qu'il puisse y avoir un échec souriant, hein, ou une réussite accablante, vous voyez. Donc, s'agissant de l'amour, de la même façon, on peut de même aimer quelqu'un très fort et le détester également fort en même temps. Toute l'œuvre de Racine le montre. Hein. En fait, l'amour est une joie et aussi en même temps une souffrance, hein, comme Truffaut l'indique à la fin de son film « La femme d'à côté ». Et on peut souffrir très fort et ne pas vouloir changer sa place pour un empire. Les ennuis chassent l'ennui. Les ennuis d'amour ont au moins ceci de bon qu'ils n'ennuient jamais. C'est le paradoxe du masochisme affectif, tel qu'on peut le voir par exemple dans les lettres de la religieuse portugaise. Voici ce que dit cette religieuse, abandonnée par son officier français qui l'a séduite. Maintenant la religieuse est recluse dans son couvent au Portugal, mais elle écrit des lettres enflammées à son ancien amant, et elle dit « Je vous remercie du trouble que vous me causez, et je déteste la tranquillité où j'ai vécu avant que je vous connusse. » Vous voyez. Elle dit aussi « Adieu, aimez-moi toujours, et faites-moi souffrir encore plus de maux. » Vous voyez. Donc c'est ça le masochisme affectif. Donc les gens, pour simplifier, qui croient qu'il y a amour ou bien haine, se trompent, hein, qu'il y a bonheur ou bien malheur, se trompent, puisqu'on peut trouver justement une satisfaction dans la peine même, dans la souffrance même que l'on éprouve. Alors, vous pourriez vous poser la question, pourquoi, la question suivante, pourquoi le langage est-il si ambigu? Pourquoi est-il si brouillé, si difficilement compréhensible? Ce langage flou, il me semble, est riche par le fait même qu'il est flou. Alors, bien sûr, par souci de rationalisation, on pourrait imaginer de simplifier le lexique des qualifiants. Par exemple, en utilisant un préfixe négatif pour chaque couple, réalité positive et son antonyme. Hein. Par exemple, Orwell évoque cette entreprise dans son roman dystopique, c'est-à-dire qui montre la catastrophe justement qui peut se produire quand se réalise une utopie. Ce roman s'appelle 1984. Donc, dans le novlangue, c'est-à-dire la langue nouvelle que l'on a inventée dans cette société totalitaire, on va simplifier les choses. Alors, si on prend un qualifiant comme clair, par exemple, et son antonyme sera inclair, sur bon, on va forger un bon, etc. Mais alors, on ne peut plus prononcer et donc penser les oxymores du type clair-obscur, bon-mauvais, etc. Ce serait la victoire catastrophique de la logique sur certains symboles parmi les plus élevés. Vous voyez que, bon, on pourrait bien sûr à ce moment-là réduire le nombre de pages des vocabulaires, peut-être faire des économies de papier et donc abattre moins d'arbres, mais en fait le résultat serait très mauvais. Hein, le clair-obscur, voyez Rembrandt par exemple, hein, voyez cette obscure clarté qui tombe des étoiles chez Corneille. Bon, si le contraire de clair c'est un clair, eh bien évidemment cela ne peut pas être pensé. Alors toute la psychologie du sacré, par exemple, insiste sur le double visage de chaque chose, de chaque manifestation de ce qu'on appelle le numineux, du latin numen qui veut dire puissance sacrée. En effet, prenez le mot latin sacer. Sacer, ça veut dire à la fois sacré et maudit. Songez que le signe que Dieu a mis sur Caïn, sur le front de Caïn, pour le faire expier, pour éviter qu'on abrège ses souffrances en le tuant, est un signe d'élection et de malédiction à la fois, qu'il soit sacré et maudit, sacer esto, vous voyez, hein. Donc, il y a le langage, parfois, unit justement ces oppositions. Prenez en grec le mot pharmakos, qui veut dire à la fois remède et poison. Alors, prenez par exemple le cas de l'enfant quand il provoque ses parents. Je dirais que l'enfant redoute et désire à la fois le châtiment de son père. Toute désobéissance, toute transgression est plus ou moins un secret désir d'attirer l'attention sur soi-même, d'être reconnu. L'enfant crie ou se dissipe pour, comme on dit, faire l'intéressant. Ainsi existe-t-il dans l'homme un amour du censeur, comme le disait Pierre Legendre, vous voyez. Donc les replis du cœur sont innombrables, puisque dans la vie on peut désirer et redouter en même temps et très fort quelque chose, par exemple un changement qu'on s'imagine décisif, par exemple, hein. L'envie et la peur sont sœurs parfois. Prenez l'exemple de Proust, eh bien, si vous voulez, la perspective d'un voyage à la fois lui plaisait, mais il l'a redouté. Et à un moment, il dit l'expression suivante, « tragique comme un départ en chemin de fer ou l'érection de la croix au Golgotha », vous voyez. Donc, un voyage, si l'on est introverti, peut à la fois faire beaucoup envie et aussi faire peur. Voilà, alors si on reprend cette réflexion sur l'ambiguïté profonde qui relève de la réalité humaine, anthropologique fondamentale, eh bien, on sera évidemment peut-être désarçonné, mais en même temps, on comprendra par exemple des éléments comme ce que rapportent les contes. Un beau visage, dès qu'il se met à parler, va se mettre à cracher des crapauds ou des serpents. Donc cela veut dire que toute chose, chargée de valorisation particulière et riche de coefficients émotionnels, a deux faces opposées. Vous voyez, la réalité humaine, comme le dieu Janus, elle est bifronce, hein, elle a deux faces. Vous voyez par exemple le mois de janvier qui vient de Janus, Januaris Mensis, il regarde à la fois sur l'année passée dont il se fait la récapitulation et sur l'année à venir. Et Janua, c'est la porte, hein, qui fait passer d'une année à l'autre, vous voyez, hein. Donc la logique simplifie tout cela, mais les symboles nous montrent cette ambiguïté fondamentale. Alors comment s'y prennent-ils, hein? Voyons ce qu'il en est des catégories de la logique symbolique. Elle ignore cette logique symbolique, la vraisemblance de la perception prosaïque, puisque les éléments y sont unis par voisinage poétique, de façon souvent impossible logiquement. Prenons par exemple le début du conte très connu « Blanche-Neige » des frères Grimm. Je vous lis le début. « Il était une fois, en plein hiver, quand les flocons descendaient du ciel comme des plumes et du duvet, une reine qui était assise et cousée devant une fenêtre qui avait un encadrement de bois d'ébène noir et profond. Et tandis qu'elle cousait négligemment tout en regardant la belle neige au dehors, la reine se piqua le doigt avec une aiguille et trois petites gouttes de sang tombèrent sur la neige. C'était si beau ce rouge sur la neige qu'en le voyant la reine songea « Oh, si je pouvais avoir un enfant aussi blanc que la neige, aussi vermeil que le sang et aussi noir de cheveux que l'ébène de cette fenêtre !» Bientôt après, elle eut une petite fille qui était blanche comme la neige, vermeille comme le sang et noire de cheveux comme le bois d'ébène, et Blanche-Neige fut son nom à cause de cela. Mais la reine mourut en la mettant au monde. Au bout d'un an, le roi prit une autre femme qui était très belle, etc., etc. Alors, regardons bien comment est écrite cette scène. La reine coud à l'intérieur de la pièce, et la neige est à l'extérieur. Donc la reine regarde la neige au dehors. Comment alors peut-il se faire, lorsqu'elle se pique le doigt, que les trois gouttes de sang peuvent tomber sur la neige? C'est pas possible, ce sont deux espèces différentes. Ici, les éléments sont réunis comme en un tableau, enserrés par le cadre de la fenêtre. Le blanc, le rouge, le noir, de façon strictement frontale ou bidimensionnelle, sont rapprochés par nécessité poétique, sans aucun souci de cohérence, de vraisemblance ou de causalité logique. Je parie que si l'enfant qui lit l'histoire la comprend bien, il ne se posera pas la question de savoir comment les gouttes de sang qui sont à l'intérieur de la pièce peuvent tomber sur la neige qui est à l'extérieur. L'enfant ne retient que l'admirable juxtaposition des éléments et des couleurs. Et il a raison, en cela il est poète et non logicien. L'anomalie ne peut venir qu'à l'esprit de quelqu'un de logique, c'est-à-dire à l'esprit d'un adulte. Donc vous voyez que dans le langage symbolique, les catégories de succession linéaire, de causalité, de chronologie ne sont pas respectées comme dans les rêves, où les associations faites par l'esprit ne sont pas logiques, mais analogiques, vous voyez, ou métaphoriques. Des éléments impossibles à mêler ensemble dans la vie éveillée ou logique voisinent tout à fait naturellement dans les rêves. Rien n'est explicite et tout est à comprendre. Rien n'est démontré, mais tout est montré. Alors, voyons ce qu'il en est. Les gouttes de sang précèdent dans l'histoire la naissance de l'enfant, tout simplement. Dans la réalité, elles peuvent la causer, cette naissance. Il y a d'abord la défloration, puis il y a la conception, et puis il y a l'accouchement. L'accouchement, c'est du sang sur des draps blancs, comme disait Jacques Prévert. Donc, il n'est pas nécessaire de rationaliser et d'expliquer le sang, comme je viens de le faire. Il faut rêver sur lui, dans ses rapports avec la naissance et la mort. L'image, en réalité, s'adresse non pas à notre logique, mais à notre inconscient. Et alors, toujours à partir de Blanche-Neige, on voit ce qu'il peut en être des disjonctions symboliques. Le récit disjoint la mère en deux personnages. La première, la vraie mère ou la bonne mère, est opposée à la seconde qui succède à la première lorsque celle-ci est morte. La mauvaise mère ou la marâtre, la seconde épouse du père, est jalouse de l'héroïne et est à ses yeux méchante. Mais en réalité, si l'on intériorise cette histoire, et si on l'interprète sur le plan du sujet, ces deux femmes ne sont qu'une seule femme. L'enfant a d'abord une bonne image de ses parents. Tant qu'il est petit, il se sent protégé par eux. Puis il change dans la perception qu'il a à leur égard. Les parents, pour lui, deviennent méchants, puisqu'ils empêchent sa liberté, son épanouissement. Alors le récit symbolique ne dit pas cela directement, mais il le dit indirectement. Le premier parent, le bon parent, meurt, et le second se remarie avec un autre, et le second est méchant. on disjoint en deux personnages ce qui n'est qu'une affaire de projection sur un même être. On voit bien par exemple cela dans l'histoire de Cendrillon, hein. Elle est victime des persécutions de sa marâtre, hein, et elle se rattache au souvenir de sa bonne mère, de sa mère morte qui était pour elle sa vraie mère, archétypalement parlant, hein. Et la bonne fée prend le relais de la bonne mère. Alors l'histoire dit de ne pas désespérer et qu'il faut se rattacher au souvenir que les problèmes se résoudront de cette façon, hein, par la remémoration du parent protecteur archétypal. Alors tout cela est expliqué dans un livre de Bettelheim qui s'appelle « Psychanalyse des contes de fées » que je vous engage à lire. Bettelheim disait que les contes avaient pour fonction de montrer aux enfants la possibilité qu'ils ont de se guérir de leurs problèmes, de surmonter leurs épreuves. Il disait même que si l'on racontait des contes de fées aux enfants le soir avant qu'ils s'endorment, plus tard les enfants devenus adolescents ne se drogueraient pas, vous voyez, hein. Bon, alors je ne sais pas si c'est suffisant, hein, mais en tout cas il faut laisser la question ouverte. Alors, s'agissant du changement de perception que l'on a des parents quand on grandit, quand d'enfant que l'on était on devient adolescent, il faut noter que c'est réciproque aussi, hein. La métamorphose de l'enfant ou de l'adolescent sous le regard de ses parents est aussi possible. Non seulement les parents changent pour le jeune, mais aussi le jeune change pour ses parents. Et parfois, il se produit chez les humains l'inverse de ce qui se produit chez les insectes. Par exemple, on dit toujours que c'est d'un ver que sort le papillon. Eh bien, chez l'homme, c'est plutôt souvent le papillon qui devient un ver, hein. Voilà, bon. Voyez comment Kafka commence sa métamorphose, son récit de la métamorphose. Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa se réveilla transformé en une véritable vermine, vous voyez, hein. Eh bien, ce roman, ce récit plutôt de Kafka, hein, c'est une longue nouvelle, hein, peut signifier cette transformation effective d'un être, hein, par un regard ou une parole en vertu du pouvoir performatif du langage. En effet, le père de Kafka lui avait dit un jour « Tu es une véritable vermine, hein ». Eh bien, c'est ça, le pouvoir performatif du langage, c'est la capacité qu'a le langage de faire arriver effectivement ce qu'il énonce. Donc, ayant entendu cela, le Kafka jeune, hein, a donc pu être transformé, hein, et la transformation, elle n'a bien sûr de sens que comme regard ou projection, autrement en termes positifs, elle est absurde. Donc, vous voyez, il ne faut pas simplifier de façon manichéenne les récits, hein. Il faut toujours bien distinguer en eux le contenu manifeste et le contenu latent, hein. Alors tout le monde n'en est pas capable, hein. La capacité de saisir les symboles ou de penser par symbole, c'est le signe d'une fraîcheur instinctive, celle de l'enfant, et aussi c'est un signe de haute culture, hein. La première exigence, c'est d'abandonner la logique. Lire, par exemple, parce que, là où il y a, malgré, hein. Comme le disait Freud à propos du rêve, derrière le contenu manifeste des récits symboliques, il y a un contenu latent qui est différent du premier et qui souvent le contredit. Alors, aujourd'hui, la déculturation est telle que on n'a plus cette capacité, ou on l'a plus, en général, hein, on perd cette capacité de percevoir le sens profond, le sens caché des symboles, hein. Alors, il faut retrouver, justement, cette capacité, et c'est à cela, justement, qu'un travail de reculturation peut se consacrer, hein. Il faudrait donc passer à, comme je l'ai dit, bien des fois dans cette série d'émissions, de la Kultur, c'est-à-dire de l'héritage reçu sans examen critique de notre patrimoine, à la Bildung. Bildung, c'est-à-dire la formation de soi par soi, hein, transformer l'héritage en l'assimilant et en le retrouvant, sa richesse au fond de soi-même. Alors, dans la prochaine émission, nous continuerons cette réflexion sur le langage symbolique. Donc je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour justement creuser encore davantage ces questions. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.